Divergence numérique, 18e émission. Gilles Gouget vous cause dans le micro rouge avec 49 de fièvre, mais il est quand même là avec vous et avec notre ami Albert Bruck et Jean-Claude Stiegler, nos amis Albert Bruck et Jean-Claude Stiegler. Quant à nos autres amis, ils sont soit sur l'IRC, soit à Limoges, puisque Dimitri Robert nous téléphonera en fin d'émission pour nous donner le sommaire alléchant de la manifestation Game Over. Et puis Anthony passera nous dire un petit coucou, un sommaire ultra rempli. Alors je ne vais pas m'attarder en notre bonjour avec notamment les nouvelles du front, bien évidemment. Il sera actuellement question des brevets, un petit peu comme toujours. Une interview de Harry Hartmann, responsable du service de l'informatique administrative et des réseaux au rectorat de l'Académie de Montpellier. C'est assez intéressant. Et puis grande interview de Gaël Duval, cofondateur de Mandrake Soft, actuellement responsable de la communication de cette honorable institution. Il nous parlera notamment de la fusion de l'achat par Mandrake Soft de Connectiva. Et puis ensuite, Albert nous fera sa petite chronique livresque. Nous aurons une petite interview de Benjamin Zontag d'Alternc, réalisée par Dimitri lors de Solution Linux 2005. Philippe Mironov de Free Contrib viendra nous parler de Norian et Nanuki. Ce sera un petit peu plus tard, vers 19h50. Et puis, on aura une petite interview de Nekeme, elle aussi réalisée par Dimitri lors de Solution Linux, juste avant que Dimitri nous appelle en fin d'émission pour nous parler de Game Over. Donc on refermera avec un agenda du libre ultra bref, mais néanmoins savoureux. Tout de suite, la virgule des nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Voilà, les nouvelles du front, le front de la connerie à l'abri duquel nul n'est. Jean-Claude, que se passe-t-il du côté des brevets logiciels? Beaucoup, beaucoup de choses, si j'en crois ce qu'on peut lire sur ffii.fr.
Je pense que beaucoup de nos auditeurs savent déjà que le Conseil des ministres de l'Europe a accepté la directive sur les brevets logiciels telle qu'elle a été revue et corrigée par la Commission européenne. Maintenant, la balle est dans le camp du Parlement européen. Pour autant que je sache, et d'après les bruits de couloir que je peux connaître, les parlementaires européens sont assez fermement décidés à faire de la résistance. J'espère que, comme beaucoup d'entre eux l'ont déjà exprimé, ils vont revenir sur les amendements qu'ils avaient déjà votés en septembre 2003. Et que, en fin de compte, ce sera cette directive modifiée par le Parlement qui arrivera au débat. Oui, Albert.
Oui, mais rien n'est moins sûr, parce que d'après ce qu'on peut apprendre pour nos amis belges d'Unixtech, la situation aurait tendance à vouloir pourrir, et la Commission voudrait à la limite que tout soit cassé, qu'on reparte comme dans les années 2000, donc c'est-à-dire dans une situation de statu quo, sans aucun décret, sans rien, et que donc l'OEB continue à déposer des brevets de manière tout à fait illégale et compagnie, quoi.
Oui, c'est sûr que le président de la Commission actuelle souhaite, dans le cas où le Parlement voudrait faire voter les amendements qu'il a déjà votés en 2003, préférerait retirer le projet plutôt que d'avoir un tel vote qui, en fin de compte, interdirait les brevets logiciels. Mais il y a une autre raison qui, elle, est très politique à ce refus de la part de la Commission, c'est que ce serait quand même bien la première fois qu'au Parlement européen, la Commission soit désavouée massivement par un Parlement sur une question importante. Et comme on est en plus en pleine période de traité, d'acceptation du traité de constitution européenne économique, ça embête beaucoup les politiques de voir ce problème arriver comme ça sur la scène, en plein milieu de la scène.
Effectivement. À part ça, dans les nouvelles du front, y en a une de taille et on va en parler tout à l'heure. C'est le rachat de Connectiva dont on avait parlé un tout petit peu en fin de dernière émission par Mandrake Soft. et aussi son changement de développement. Alors ça fait beaucoup de bruit, parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, Mandroksoft sortait une distribution tous les 6 mois, et là maintenant on n'aura plus qu'une distribution tous les ans. Ça va vraiment changer les choses. Il y a aussi un changement de nom. On fait ça, on en parlera plus longuement tout à l'heure avec Gaël. Mais il y a vraiment des choses qui se passent à ce niveau-là. Et aussi, pour finir, une nouvelle distribution pour les débutants fait son apparition. C'est Arch Linux. Je vous conseille d'aller sur son site pour la découvrir. C'est archlinux.org. C'est une nouvelle distribution aussi pour les utilisateurs débutants qui semble vraiment excellente.
Merci Albert pour ces précisions.
Alors les nouvelles du front, on vous conseille de rester au courant en allant sur ffii.fr, notamment un changement important dans la loi sur les brevets au niveau du point numéro 6 qui est sorti le mercredi 23 mars 2005. Et puis je crois qu'on en a fait un petit peu le tour. On va tout de suite, vu qu'on prend un petit peu d'avance, écouter une interview que nous a accordée Harry Hartmann, responsable service de l'informatique administrative et des réseaux au rectorat de l'Académie de Montpellier. Harry Hartmann, bonjour.
Bonjour.
Alors on vous reçoit dans Divergence Numérique suite à la réception d'un communiqué de presse où le recteur d'Académie de Montpellier, Christian Nick, avait mobilisé l'Académie sur la sécurité technique et éducative dans l'usage des nouvelles technologies. Alors vous êtes vous-même en quelque sorte responsable informatique à l'Académie de Montpellier, plus précisément dans les réseaux. C'est ça ?
Voilà, tout à fait. Moi, je suis le responsable de l'informatique administrative dans les services académiques et dans les établissements scolaires de l'Académie, mais aussi j'ai en charge ce qu'on appelle le rôle de responsable de sécurité des systèmes d'information. Il y en a un par Académie qui est chargé effectivement de veiller à la sécurité des systèmes d'information au sein des services et des établissements scolaires.
En ce qui concerne l'Académie de Montpellier, ce qui a suscité ce séminaire qui s'est tenu le 1er mars, c'était la sécurité informatique. C'est un thème très, très en vogue, puisque de plus en plus de gens ont accès à ces outils. Et la sécurité est un problème pour beaucoup de personnes. Comment se posent les problèmes de sécurité au niveau d'une académie ?
Effectivement, donc, le recteur Christian Nick a souhaité effectivement réunir l'ensemble des cadres de l'université, des établissements d'enseignement supérieur, des services académiques et des établissements pour leur présenter effectivement les problèmes et faire réfléchir pendant une journée aux problèmes de sécurité que posent maintenant les systèmes d'information. Alors, au niveau d'une académie, nous avons les mêmes problèmes qu'une grande entreprise, qu'une grande administration, c'est que nous avons des systèmes d'information qui permettent de gérer l'ensemble de nos actes de gestion. Nous traitons les examens, les concours, nous avons la gestion des personnels. Donc nous détenons dans nos services des ordinateurs qui détiennent des informations dites sensibles qu'il faut protéger. Imaginez-vous, je crois, les conséquences qu'aurait une intrusion, par exemple, étrangère sur les fichiers qui contiennent notes du baccalauréat. Donc là-dessus, ou les sujets, par exemple, d'examen qui sont produits sur des ordinateurs. Donc il faut à tout prix protéger. Et jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème et les mesures sont prises à notre niveau pour éviter toutes les intrusions. Bon, nous avons ces problèmes-là classiques d'une grande entreprise, mais nous avons aussi autre problème de sécurité informatique, c'est que nous avons des élèves qui accèdent à l'Internet dans les établissements scolaires, et il faut effectivement les protéger vis-à-vis des accès sur des sites inappropriés, qu'ils soient pédophiles, qu'ils soient racistes, qu'ils soient
politiques,
pornographiques et autres. Donc là-dessus, il y a tout un ensemble d'intuitifs qui sont déployés. Nous avons parallèlement un accompagnement au niveau des différents décideurs, au niveau responsables d'établissements et autres, pour leur faire prendre conscience et leur donner les outils qui leur permettent d'exercer leur responsabilité. Voilà.
Alors, au niveau de l'Académie de Montpellier, quelle est la proportion et quels sont les outils libres que vous utilisez par rapport au reste du parc ?
Alors, tous nos systèmes actuellement d'informatique dites tournés vers l'Internet, donc tout ce qui est l'hébergement de serveurs web, tous les dispositifs de sécurité sont basés sur des produits libres qu'on trouve couramment, qui sont couramment connus. Alors, au niveau des dispositifs, nous avons deux grands types qui sont un peu liés au type d'établissement. D'un côté, nous avons les écoles, de l'autre côté, nous avons les collèges, les lycées, les universités. Alors, dans le deuxième cas, ce sont des établissements qui disposent de services spécialisés, qui disposent au moins dans les lycées et collèges d'un personnel ressources plus ou moins, qui est à même capable de pouvoir utiliser des systèmes de pare-feu, Par contre, au niveau des écoles, il n'y a pas de personnes spécialisées dont nous avons un autre service. Alors, au niveau des lycées et des collèges, nous déployons ce qu'on appelle un serveur de sécurité amont, hein, c'est son nom, qui est basé sur du logiciel libre. Il est construit sur un Linux Mandrake, là-dessus. Et cet appareil-là, ce serveur-là, permet effectivement de protéger non seulement l'accès de l'extérieur, c'est-à-dire que de l'extérieur, on ne peut pas accéder au réseau de l'établissement, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, il filtre les accès des élèves par rapport, hein, les adresses qui sont recherchées par les élèves sont comparées sans arrêt à des listes de sites interdits. Il y a aussi des analyses de contenu qui effectivement bloquent, si jamais on s'apercevait que le site est dangereux pour l'élève, bloquerait l'accès. C'est une chose. Au niveau des écoles, effectivement, bon, nous n'avons pas ce type de serveur, mais nous avons mis en place au niveau académique un proxy serveur, ce qu'on appelle un serveur mandataire, hein, sur lequel les écoles dirigent leur flux d'élèves. Et c'est au niveau du rectorat que nous assurons ce contrôle et ce blocage éventuel. Tout cela pour décharger effectivement les écoles de toute problématique de gestion de serveurs, de gestion de listes et autres. Hein, voilà.
Alors, on a vu dans l'actualité, et c'est une chose qui s'étend, que de plus en plus d'administrations optent pour des outils libres. Évidemment, en matière de sécurité, on le sait, ne serait-ce qu'au niveau mondial, aujourd'hui, la proportion de serveurs qui tournent sous Unix ou sous Linux est bien plus importante que des distributions type Microsoft ou autre. Par contre, au niveau des utilisateurs, ça commence. C'est-à-dire que récemment, la gendarmerie passe à OpenOffice en lieu et place des outils qu'elle avait sous Microsoft. Qu'en est-il au niveau de l'Académie de Montpellier, au niveau des postes clients, entre guillemets ?
Bon, au niveau de l'Académie de Montpellier, au niveau des postes clients, la particularité un peu, le libre n'est pas tellement introduit sur les postes clients. Je crois que là, nous avons des directives effectivement au niveau interministériel d'utiliser le maximum d'outils libres de manière à diminuer effectivement les coûts de fonctionnement aux administrations là-dessus. Il y a des contraintes budgétaires qui s'imposent. Bon, c'est vrai qu'au niveau de l'éducation nationale, nous avons une politique, un accord avec Microsoft depuis de longues, longues années. Et effectivement, le coût des logiciels est très, très faible. Le coût des licences est très, très faible. Bon, il faut dire que le libre, on a la gratuité de la licence, mais en contrepartie, ça nécessite un petit peu plus d'appui. Pour le moment, les logiciels ne sont pas encore au même niveau de facilité d'utilisation que des logiciels de type propriétaire. C'est vrai pour Microsoft, c'est vrai pour d'autres là-dessus. Donc ça nécessite une assistance un peu plus forte qui, des fois, grève un peu le coût là-dessus. Quand on considère les coûts, il faut considérer les coûts d'achat des licences, mais aussi le coût d'appui et le coût des appuis des assistances qu'on doit faire derrière. Alors c'est vrai que dans notre cas, pour les utilisateurs, les logiciels Microsoft au niveau du poste de travail restent encore intéressants. Par contre, sur tout ce qui est serveurs centraux et autres, nous serons maintenant, au 30 juin prochain, nous n'aurons plus de gros serveurs d'information centraux sur des outils propriétaires. Ils seront tous passés sur du logiciel Linux. Ils seront tous dans Linux, en Linux Red Hat, pour ne pas le nommer là-dessus, je ne fais pas publicité, pour effectivement diminuer le coût des licences. Parce que là, on a affaire avec... nous avions des systèmes type AX, par exemple, donc ils sont très, très coûteux en termes de licences. Voilà. Et là, maintenant, il faut dire aussi que les logiciels libres commencent à être matures là-dessus, et on commence maintenant à avoir quand même des outils qui sont performants. On a effectivement hésité longuement avant de passer, imaginez tout ce qui est gestion des baccalauréats par exemple, il faut être sûr et certain que ça fonctionne bien, et donc il a fallu qu'on teste, et à partir des tests qui ont été faits, des expérimentations qui ont été faites dans différentes académies, maintenant on peut considérer que le logiciel libre a atteint une maturité suffisante, et nous aurons, donc dès la prochaine session, le baccalauréat sera géré sur des serveurs avec du logiciel libre.
Voilà. Très bien. Alors, l'ADULACT, c'est une association de développeurs et d'utilisateurs de logiciels libres pour les collectivités territoriales qui est présidée par François Elly. Lui, son discours, c'est de dire que l'argent public ne doit payer qu'une fois et d'autre part, c'est que dans l'utilisation des licences, le libre ne veut pas dire gratuit. Et quand on passe au logiciel libre, il faudrait reporter l'économie réalisée par rapport au coût des licences sur de la création d'emplois en embauchant des informaticiens qui créent du code qui développe des outils libres à destination des autres collectivités ou services administratifs, etc. Est-ce que c'est une pensée qui a cours dans l'académie?
Vous savez, l'académie, là, nous sommes soumis aux contraintes nationales là-dessus. Voilà. Bon, il faut dire qu'actuellement, on est plutôt vers une diminution des moyens, une économie de moyens dans les administrations de l'État. Hein. Il y a des contraintes budgétaires très fortes au niveau national, au niveau européen, autres qu'il faut respecter. Ce qui fait que dans nos services, on ne va pas vers une augmentation très forte des moyens. Par contre, on va vers une meilleure utilisation des moyens que nous avons à notre disposition là-dessus. Hein. Actuellement, nous faisons des réorganisations importantes dans les services, de manière à éviter tout ce qui est doublon, à éviter de mieux mutualiser entre différentes académies aussi. On n'est pas à l'Académie Montpellier, fait partie du ministère, il y a 30 autres académies, et nous développons actuellement des services très mutualisés, c'est-à-dire qu'une académie travaille sur un secteur et le distribue aux autres. À Montpellier, nous sommes une académie, nous avons une charge interacadémique, hein, nous développons des produits que nous diffusons aux autres académies. Il y a comme ça un partage des compétences, parce que nécessairement, il faut spécialiser de plus en plus les services, ça devient de plus en plus complexe. L'informatique, c'est le pendant. Elle est de plus en plus facile à utiliser pour l'utilisateur final, hein, mais par contre, elle est de plus en plus complexe pour les informaticiens. Ouais. Donc, ça nécessite effectivement une forte mutualisation des compétences et aussi une forte spécialisation. Hein, on ne peut plus maintenant, un informaticien n'est pas compétent sur toute la gamme des systèmes et des matériels qu'il a. Hein, il est compétent sur une partie. Hein, il ne peut pas être compétent sur tout. Donc, il faut à tout prix spécialiser les personnels et les mutualiser. Voilà un petit peu ce que nous faisons.
Alors, Montpellier est une ville universitaire importante. Je sais qu'à la faculté de sciences de Montpellier, la proportion des logiciels libres a fortement augmenté sur les dernières années. Est-ce que un bassin universitaire peut être un réservoir de ressources pour développer des outils à destination du rectorat ou d'autres institutions?
Tout à fait, hein, tout à fait. Le bassin universitaire, on s'appuie. Bon, nous avons des outils de gestion, hein, qui sont fabriqués au niveau des rectorats, puisqu'on a quand même des besoins un peu propres. On est rectorat, on est une académie. Bon, les universités sont des établissements d'enseignement supérieur, ont aussi une mutualisation de leur production. Hein. Il y a une agence qui s'appelle l'AMU, l'Agence de mutualisation des universitaires. Donc, qui effectivement est chargé et dont une grande partie est ici à Montpellier, basée ici à Montpellier. Hein, donc, qui a en charge développement de produits pour les universités. Mmh. Pour les rectorats, c'est vrai que le ministère de l'Éducation nationale a ses propres services, a ses propres rectorats. Là-dessus, on a ici à Montpellier un service de développement de produits, hein, que nous diffusons dans notre académie.
Voilà. D'accord. Harry Hartmann, je vous remercie. Je rappelle que donc, vous êtes en charge de la sécurité informatique au niveau de l'académie, de l'informatique auprès de l'administration. Et on sera ravis de voir l'essor que prendront les logiciels libres au sein de l'Académie de Montpellier.
D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir reçu. Et je suis prêt effectivement à vous montrer cette évolution et ces résultats dès que vous le souhaiterez. Merci. Merci et bon courage.
Au revoir.
beat, move your feet, move to the beat, move to the beat, move to the beat, move your feet, move to the beat, move to the beat, move to the beat, move your feet, move to the beat, move to the beat, move to the beat, move your feet, move to the beat, move to the beat, move to the beat, move your feet, move to the beat, move to the beat, move to the beat, move your feet, move to the beat, move to the beat, move to the beat.
Est-ce que c'est vrai que le monde existe? C'est Is It True The World Exists, extrait de l'album de Dr. Paradox qu'on avait déjà passé dans Divergence Numérique. Une musique sous licence Creative Commons by NCSA 1.0. Et puis à présent, on va parler, comme on le disait au sommaire, on va parler de l'acquisition, enfin de la fusion de Linux Mandragsoft et Connectiva. Au téléphone avec nous, Gaël Duval, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ça a été accueilli globalement comme une grande nouvelle. D'autant que il faut savoir, pour ceux qui l'ignorent, que Connectiva est une société fondée en 95 au Brésil. Le Brésil, qui est un pays qui a fait preuve de son ouverture d'esprit et de sa compréhension de la problématique du libre. On l'a vu dans l'actualité internationale il y a pas si longtemps que ça. À ce niveau-là, peut-être pour lancer la question, après je laisserai mes acolytes vous cuisiner davantage. Est-ce que à ce niveau-là, il n'y a pas justement un grand espoir d'un axe franco-brésilien du logiciel libre?
Voilà, un axe franco-brésilien du logiciel libre, ça me semble être peut-être un peu fort. Mais c'est vrai quand même que, d'ailleurs on l'a rappelé dans la communication qu'on a fait lors de cet événement, il est vrai qu'il y avait chez Connectiva, je dirais, des valeurs et un fit intellectuel qui d'emblée, je dirais, nous sont apparus comme vraiment des points positifs de cette fusion, c'est-à-dire qu'on a traversé un peu tous les mêmes... les mêmes aventures, on a des produits qui, sans être identiques, ont pas mal de points communs, on a une manière de penser qui se rapproche. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, la fusion avait du sens.
Oui, bonsoir Gaël, c'est bonsoir. Jean-Paul de Stigler là, qui est au micro. Je pense que on vous avait accueilli dans cette émission il y a déjà 2 ans. À l'époque, Mandragsoft était dans une situation financière délicate. Aujourd'hui, le climat est complètement différent. Mandragsoft est une société qui se porte très bien. Mais par ailleurs, beaucoup de gens toujours se posent des questions à propos de cette fusion, à propos du nouveau plan de développement aussi des nouvelles versions du système Mandrake qui va donc paraître de manière annuelle dorénavant. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire à ces gens qui se posent des questions?
Ah bah déjà, peut-être faudrait me poser les questions. Quelles questions exactement?
La question, c'est pourquoi un cycle de développement sur 1 an? Enfin, moi, personnellement, je crois l'avoir compris. Mais il y a des gens que ça semble déranger de n'avoir plus qu'une seule version par an.
D'accord. Alors, il faut bien distinguer deux choses. D'abord, le cycle de développement d'un an, il n'a pas de rapport direct avec la fusion avec Connectiva. Le cycle de développement d'un an, il est, je dirais, c'est une décision qui a été prise suite à des requêtes qu'on a eues de la part des partenaires, des utilisateurs également, en particulier dans le monde professionnel, qui, je dirais, qui ont du mal à suivre, à mettre à jour leur machine 2 fois par an. C'est vrai que ça peut se comprendre, hein, mais je ne sais pas quelle est la façon dont vous faites ça, mais moi, j'arrive pas à installer chaque nouvelle version. En général, j'en laisse passer une. Donc je pense que ça avait du sens. Ensuite, il y a la fusion avec Connectiva, donc qui fait qu'on va sortir une version à la place de la 10.2, une version spéciale, avant d'intégrer la technologie Connectiva. Et ensuite, on passe sur un cycle de 1 an. Mais je dirais qu'il n'y a pas de lien direct entre le cycle de 1 an et la fusion Connectiva. Par contre, ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y aura pas moins de versions, et notamment pour les membres du club Mandrake, puisqu'on a beaucoup de monde qui est abonné au club Mandrake, il y aura des versions intermédiaires qui paraîtront au moins une fois tous les 6 mois, voire 2 fois tous les 6 mois, qui seront mises à jour avec tous les derniers pactages logiciels.
Une question justement à propos des technologies que vous allez utiliser de Connectiva. Connectiva est connu justement pour avoir porté APT sur RPM, pour avoir créé le logiciel Synaptic, qui est en fait une interface graphique à d'une part APT-GET du monde Debian et aussi APT-RPM. Est-ce que par rapport à URPMI, où exactement vous allez situer ça par rapport à Connectiva justement?
Alors c'est vrai que c'est une excellente question, parce que les deux systèmes font un petit peu la même chose globalement. Nous, de notre côté, c'est sûr que RPMI, on aime bien et que les utilisateurs aiment bien. Je pense que ça répond à pas mal de besoins, c'est performant, efficace. Et de l'autre côté, on a ce système de chez Connectiva, mais qui permet en outre d'utiliser des pactages Debian, donc qui a également un avantage. Donc actuellement, on est en train d'évaluer qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter d'avoir les deux en parallèle, ce qui pourrait peut-être être un peu compliqué pour l'utilisateur, mais peut-être d'avoir un outil convergent qui prendrait le meilleur de chacune des technologies. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de décision qui est prise, parce que c'est vraiment technique. Mmh. Mais à terme, je pense que c'est l'utilisateur qui en tirera tous les bénéfices.
Parce qu'aujourd'hui, bon, on va dire qu'il y a réellement trois systèmes qui sont d'un côté donc APT-GET, de l'autre côté YUM, des Red Hat et Fedora, etc. Et bon, un quatrième peut-être avec Gentoo, et le troisième qui est en fait YUM. Et c'est vrai qu'en réunissant URPMI et APT-RPM, quelque part, vous allez avoir une puissance qui risque d'être assez impressionnante par rapport aux autres distributions.
Tout à fait. Là encore, il y a deux points. Il y a le premier point. Déjà, il y a le format de package, donc qui est dans un cas RPM. Alors, Connectiva utilise RPM hein, comme Mandrake Soft. Donc, on devient peut-être un peu technique, mais ça permet également d'utiliser toute la base de package Debian, donc qui est assez monstrueuse. Alors déjà, d'un côté, on avait une base de package RPM avec Mandrake Soft qui est littéralement énorme. Je crois qu'on a plus de 6000 packages, sans compter tout ce qui est commercial. Et côté Debian, évidemment, il doit y avoir peut-être encore deux fois plus de packages. Donc au final, ça pourrait évidemment, pour l'utilisateur, être une source supplémentaire, pour puiser dans le monde du logiciel libre. Donc ça c'est intéressant de voir ce qui va se passer avec ça, surtout si on rend les deux un peu compatibles. Alors ça va également dans le sens d'un projet qu'on a qui s'appelle Linux Core Consortium, qui vise justement avec d'autres partenaires, et notamment des partenaires comme Progeny qui utilisent Debian, à faire une implémentation d'une distribution Linux qui utilise en même temps RPM et Debian, et qui en même temps correspond aux normes Linux standard base. Donc tout ça va dans le même sens, et on en attend beaucoup.
Oui, pour changer de sujet, Gaël, je voudrais revenir sur les différents contrats qui ont été passés entre Mandrake Soft et les administrations gouvernementales et autres. Je crois que comme tout utilisateur de système New Linux et promoteur du logiciel libre, on ne peut que se réjouir de voir Mandrake Soft entrer petit à petit par la grande porte dans les administrations et ouvrir des contrats avec des institutions gouvernementales. Mais quel va être leur développement dans le futur, en supposant aujourd'hui, bien sûr, avec le problème des brevets logiciels qui sont en suspens, est-ce que vous ne craignez pas que cette démarche de l'État là, soit un petit peu freinée par cette actualité?
Vous parlez vraiment des brevets logiciels, en fait, c'est ça ?
Ben, oui, enfin, pour moi, les brevets logiciels mettent une épée de Damoclès sur le développement des logiciels libres et donc des entreprises qui utilisent les logiciels libres.
Alors, moi, j'ai un avis qui est peut-être un peu décalé par rapport à ça. D'un côté, je vais m'exprimer à mon nom propre, hein, parce qu'on n'a pas une politique de communication officielle, j'ai un accent à ce sujet-là. D'un côté, il est vrai qu'il y a un problème avec les brevets logiciels et ce qui s'est passé récemment est catastrophique d'un certain point de vue, bien que ça ne soit pas fini, il faut le rappeler. D'un autre côté, je ne pense pas que même si on a une politique très dure au niveau des brevets logiciels, je ne pense pas franchement que ça va empêcher le logiciel libre de se développer. Alors après, ça peut empêcher peut-être certaines administrations, entreprises d'adopter le logiciel libre par peur de ces problèmes. Mais il faut rappeler, et ça je pense qu'on l'a pas assez dit, que les brevets logiciels, en tout cas la forme qu'ils pourront peut-être prendre si ça se passe pas bien au niveau européen, ces brevets logiciels ne sont absolument pas, un frein uniquement pour le logiciel libre. Ça va également être un frein pour des dizaines de milliers de petites entreprises du logiciel en Europe, propriétaires, hein, pas uniquement libres, hein, toutes ces petites entreprises qui ne pourront pas mettre de l'argent pour déposer des tonnes de brevets logiciels, ils vont tous se faire avoir à ce jeu-là. Donc il va rester que les gros, et en particulier, il va rester tous les gros qu'on connaît déjà, les grosses entreprises américaines du logiciel.
Oui,
Microsoft, voilà. IBM et Sun, pour ne pas la citer.
Donc c'est absolument pas spécifiquement un problème lié au logiciel libre. Alors ça aura des répercussions sans doute, peut-être, sur l'avenir du logiciel libre, pas sur son développement, mais peut-être sur son utilisation. Mais je pense qu'il est important de rappeler que ça va être aussi catastrophique pour l'emploi du logiciel en Europe, quoi, dans toutes les sociétés qui font des logiciels propriétaires notamment.
Oui, vous avez parfaitement raison. Je crois que, bon, au moins chez nous, là, on est bien d'accord sur ce point de vue. Les brevets logiciels nuisent autant aux logiciels propriétaires qu'aux logiciels libres.
Tout à fait.
Et je pense qu'effectivement, les logiciels libres continueront de se développer malgré tout. Mais ma question, elle touchait surtout à l'usage que vont faire les institutions de ces logiciels, pour autant que qu'on peut suggérer à certains dirigeants d'entreprises ou d'institutions qu'ils risquent de tomber sous la coupe de brevets de façon impromptue.
Tout à fait. Alors il faut aussi prendre en compte le fait qu'actuellement il y a des sociétés comme IBM notamment qui mettent à disposition du logiciel libre des brevets qu'ils détiennent. Donc ça c'est important également, c'est aussi un contre-pouvoir.
Oui, bien d'accord avec vous.
Une autre question, bon, on va repartir un peu peut-être sur le côté, peut-être pas trop technique, mais sur le côté développement de Mandraksoft. Aujourd'hui, Mandraksoft, ce n'est pas qu'une seule distribution, ce n'est pas que Mandrake Linux 10.1 aujourd'hui et bientôt Mandrake Linux 2005, mais c'est aussi Mandrake Linux Corporate et Corporate Server, et aussi une version qui permet de faire un firewall dont je ne me souviens plus le nom. Là, j'ai un
MNF.
Trou. Merci.
Network Firewall.
Voilà. Il y a aujourd'hui, actuellement, seulement deux versions qui sont téléchargeables. Celle de donc Mandrake Linux standard et la MNF. Pourquoi les corporate et corporate server ne sont pas disponibles ?
Alors, il y a la Move aussi.
Et la Move, pardon. Voilà. J'ai oublié.
Voilà. Ça en fait trois. Pourquoi ? C'est une bonne question. C'est un piège, j'imagine.
Pas du tout, non.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il faut vraiment se rendre compte que corporate server et corporate desktop, au niveau produit, je dirais, c'est vraiment rien d'autre qu'une solution Mandrake Linux téléchargeable qui est, je dirais, adaptée à une certaine utilisation. Donc, tous les composants qui se retrouvent dans ces produits-là sont de toute manière disponibles en téléchargement, que ce soit des développements, je dirais, qui viennent de la communauté, ou que ce soit des développements Mandraksoft, puisque tous les développements Mandraksoft sont diffusés ensuite sous forme de licence libre, en particulier la GPL. Mmh. Donc je dirais que ces produits, au niveau produit, c'est de fait en téléchargement, même si le produit lui-même, on le réserve pour des questions commerciales, je dirais sous forme packagée en tant que produit et offre de service, on met pas tout ça disponible. Alors je dirais que pour nous c'est un peu une sorte de de façon aussi d'inciter les entreprises à acheter des produits et des services chez nous, plutôt que de voir ces entreprises télécharger notre produit, le customiser maison chez eux, on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire, ensuite aller voir un prestataire de services informatiques et éventuellement nous. Donc pour nous, c'est ça des avantages d'avoir, je dirais, une offre qui s'étage en allant du téléchargement libre jusqu'à des offres très haut niveau qui vont répondre à des besoins spécifiques.
Une autre question aussi, bon, aujourd'hui Mandrake Linux est disponible pour plusieurs plateformes, notamment AMD 64, enfin version 64, donc AMD et Opteron si je ne m'abuse, et en format PPC, les AMD 64 est reconnu officiellement par Mandrake Soft et supporté officiellement par Mandrake Soft. Donc c'est déjà une bonne chose. Par contre, la PPC, je crois qu'elle est faite par des utilisateurs, elle n'est pas directement liée à Mandrake.
Voilà, ça c'est intéressant. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, on avait une version PPC donc, qui a été créée par Mandrake Soft, enfin ce qui était le portage de Mandrake Linux pour Intel sur PPC, en particulier pour les Mac. Mmh. Ensuite, cette version a été un peu abandonné pour une raison très simple, c'est que il faut quand même garder les pieds sur terre et être clairvoyant. On n'en vendait pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on en a vendu peut-être 5 ou 600 en 15 mois, ce qui est quand même un petit peu limite, je dirais, pour maintenir quelqu'un à travailler en permanence dessus. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que la communauté Linux, qui tourne autour de Mandrake, a récupéré ce projet-là à son compte et continue à le maintenir et à le sortir, et avec avec beaucoup de talent, puisque moi j'ai justement essayé la 10.1 sur mon vieil e-book qui a 5 ans et ça marchait vraiment très très bien. Donc je pense qu'on ne peut que se féliciter de ce genre de situation, et c'est vraiment la force du logiciel libre et de la communauté de pouvoir faire ça, quoi.
Et au niveau du portage AMD, il semble que ce soit pas tout à fait parfait aujourd'hui. Est-ce que les choses vont s'améliorer?
Je ne sais pas si c'est pas parfait, rien n'est jamais parfait, mais pour l'AMD 64, donc il y a AMD 64 et puis son pendant chez Intel, il y a une demande qui est croissante, et notamment de la part des entreprises. Donc là, par contre, sur ce coup-là, on travaille énormément en interne dessus, et les choses ne vont que pouvoir s'améliorer s'il y a des problèmes.
D'accord, merci.
Gaël Duval, on vous remercie pour ces quelques informations ultra techniques.
Oui.
On s'excuse auprès de nos auditeurs qui sont carrément néophytes, voire ultra béotiens sur le sujet.
Et qu'ils aillent voir sur mandraksoft.com, sur le site web.
Voilà, exactement.
Une approche un peu plus simple, peut-être.
Tout ce que je peux leur dire, c'est que Mandrake est un système d'exploitation qui monopolise littéralement Divergence FM, puisqu'on a pratiquement toutes les machines dessus, même si ce n'était pas les choix qu'on avait fait au départ. En tout cas, pour des raisons pratiques, c'est devenu une évidence. Et puis, d'autre part, on souhaite que cette fusion avec Connectiva porte ses fruits et les porte aussi pour le libre en général.
Bien, bien. Je vous remercie à vous, et puis je vous souhaite une bonne continuation à toute l'équipe et bonjour à tous les auditeurs de l'émission.
Merci.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
À présent, Albert, côté bouquin, que se passe-t-il donc ?
Côté bouquin, ce mois-ci, nous allons parler de deux livres. C'est donc, le premier, c'est Knopix à 200%. C'est un livre qui est sorti aux éditions Aurélie dans la collection, donc à 200%. C'est un livre pour les débutants, ceux qui connaissent peu Linux ou même pas du tout, qui va vous apprendre déjà à vous servir d'un système Linux, ce qui est déjà en soi une bonne chose. Et en même temps, les live CD, ce que ça a de bien, c'est que vous pouvez tester un Linux sans avoir besoin de l'installer sur votre ordinateur. C'est-à-dire, vous mettez les CD à l'intérieur, vous redémarrez votre machine, et si elle a la possibilité d'avoir le CD-ROM en démarrage, c'est un peu technique, mais bon, pas trop, ceux qu'un ordinateur connaît. De toute manière, pour installer un système d'exploitation, il faut avoir un boot pour démarrer sur le CD-ROM. Vous pouvez tester Linux sans l'installer, pour faire une idée, pour savoir si votre matériel est compatible, pour pouvoir l'utiliser simplement partout, c'est-à-dire avec un CD-ROM d'une Knopix ou autre, d'un live CD.
Ou de la Mandrake Move.
Ou de la Mandrake Move, effectivement, dont Gaël nous a parlé tout à l'heure, et une clé USB, ben, vous allez pouvoir vous déplacer chez n'importe où, chez n'importe qui, mettre votre CD dans le lecteur de CD et la clé USB dans le port idoine, pour pouvoir consulter vos mails, etc., en toute sécurité, sans laisser l'information, quoi que ce soit, etc., et pouvoir profiter de vos applications vraiment de manière très simple. Alors, Knopix 900% vous apprend déjà à vous servir, mais aussi à créer sa propre distribution, à la modifier avec Knopix. Il vous explique aussi qu'on peut l'installer sur disque dur et beaucoup d'autres choses. C'est très bien fait, c'est très simple. C'est vraiment pour tous ceux qui ont envie vraiment d'apprendre Linux, et en même temps pour ceux qui ont envie de toucher, de pouvoir avoir leur propre système avec leurs propres applications et tout, une manière très simple et vraiment très intéressante d'apprendre à faire ça. Voilà.
Voilà, ça, c'est chez O'Reilly.fr.
Voilà, pour la modique somme de 35 €, disponible donc dans toutes les kiosques. Mais c'est un assez gros livre avec un CD-ROM à l'intérieur, qui est une Knopix 3.6, qui est une dernière version. Et un autre livre aux éditions Vuber, qui s'appelle « Outils d'administration Linux en entreprise, système et réseau ». Alors, vous allez me dire, encore un livre qui va nous parler de l'administration réseau, il y en a des tonnes, effectivement. Mais celui-là prend un parti différent des autres, c'est-à-dire que son auteur, c'est Jérôme Henry, s'est dit « Ben moi, je ne vais pas vous parler d'administration Linux comme tout le monde, je vais vous en parler dans un cas réel, pour l'administration d'un réseau par un administrateur » dans une entreprise. Et c'est vrai qu'il ne prend que des cas concrets, que tout est très bien ficelé, tous les cas sont répertoriés, les problèmes, par exemple, de démarrage, les disques qui plantent, etc. Le fait aussi que vous soyez confronté à des systèmes différents, Windows, macOS, etc., tout ça. Des systèmes aussi de gestion du contrôle des réseaux. Tout est expliqué de manière simple, vraiment très très efficace. Et pour les administrateurs, on va dire, débutants ou intermédiaires, peut-être que les confirmés, experts et tout ça, n'en auraient pas besoin. Mais vraiment, pour tous les administrateurs débutants et confirmés, c'est un excellent livre avec des astuces que même les administrateurs experts ne connaissent pas, je peux vous le garantir. Et c'est vraiment un très très bon bouquin à conseiller aussi. Là par contre, le prix, je ne m'en rappelle plus, mais il doit être aux alentours de 35-40 € aussi. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci, pour la revue littéraire, parce que le prix n'est pas marqué sur le bouquin, donc je ne peux pas vous le dire exactement, je ne m'en rappelle plus. Et le mois prochain. Voilà.
Voilà. À présent, on va écouter une petite interview que nous avait ramené Dimitri de Solutions Linux 2005. Une interview de Benjamin Zontag de AlternC, Kazako.
Bonjour Benjamin Zontag. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter également AlternC ?
Alors moi, je suis un développeur de logiciels libres depuis maintenant quelques années. Et donc le projet que je présentais au salon Solutions Linux, c'était AlternC, un projet de portail d'hébergement qui permet de gérer l'hébergement de sites web, de mails et de tous les services qu'il y a autour. Donc, d'une adresse associée au mail, de statistiques associées au site web, de compte FTP, de sous-domaines, de listes de diffusion. Donc, tous ces services et avec les plugins, bientôt de plein de nouveaux autres services d'hébergement et de courrier et de serveurs, sont gérés facilement par une interface web. Et donc ça permet aux non-informaticiens d'installer un nom de domaine sans se prendre la tête avec des fichiers de configuration comme on peut l'avoir parfois sur Linux ou de gérer facilement des services d'hébergement. Donc, c'est un projet qui existe depuis 1998. Il s'appelle AlternC parce qu'en fait on est un peu des descendants d'Altern.org qui était sur la personne de Valentin Lacambe qui faisait de l'hébergement jusqu'en 1998. Et qui avait arrêté à cette époque l'hébergement. Et le projet en fait est né de la mort d'Altern et de l'association L'Autrenet qui à l'époque avait relancé un hébergeur autogéré associatif pour les gens qui sortaient d'Altern et qui avaient besoin d'un hébergement. Et donc c'est de là qu'est né ce projet de développement libre. Et depuis, il y a plusieurs groupes de personnes qui l'ont repris pour aider à ce projet. Et maintenant on a vraiment une communauté qui travaille autour, notamment avec Kumbit.net qui est un hébergeur québécois associatif, il y a Domaine Public qui est en Belgique, il y a Canaweb en Suisse, et donc l'autre net en France, avec aussi deux autres sociétés qui participent au développement, puisqu'elles l'utilisent pour leurs hébergements, puisque deux petites sociétés qui font entre autres de l'hébergement, mais aussi du développement web.
Voilà. Donc en fait, c'est un réseau d'hébergeurs.
Alors on a un réseau d'hébergeurs, de gens qui veulent participer au libre, ou de gens qui développent des produits libres, comme par exemple Squirrel Mail, et qui participent aussi, puisqu'on utilise en fait, hein, Altarcy utilise beaucoup de logiciels libres, comme Apache, Postfix, on utilise des grands noms du logiciel libre pour faire l'hébergement, et nous on les met ensemble dans une infrastructure globale, et ce qu'on a fourni surtout, c'est un panneau web en frontal. Donc en effet, c'est tous ces gens-là sont la plupart du temps des hébergeurs, parce que c'est eux qui sont intéressés par l'utilisation de l'outil. Mais c'est vrai qu'après, nous on essaie de s'adresser surtout à l'héberger, à la personne non informaticienne de préférence, qui veut pouvoir gérer ces choses facilement.
Oui, donc en fait, Altern-C, c'est l'interface, et dessous, il y a tout un réseau d'hébergeurs, et c'est transparent pour l'héberger, quoi. En gros, c'est ça, quoi, si j'ai bien compris.
C'est transparent pour l'héberger, puisque lui, il voit une interface web qui peut être toujours la même, mais qui est personnalisable aussi. Donc, on a des hébergeurs qui avaient mis un fond noir parce que leur charte graphique est plutôt sur fond noir, etc. Mais oui, l'héberger, lui, pour lui, c'est transparent. Il voit qu'il a une facilité de gestion, et donc, il se sent vraiment plus autonome, plus libre aussi, lui-même. Même en tant que client, si c'est dans une boîte commerciale, il peut se sentir plus libre parce qu'il a vraiment une autonomie de gestion bien supérieure.
Parlons un peu de la structure qu'il y a derrière Altern-C. C'est une association, c'est une société?
Alors en fait, il n'y a jamais rien eu, tout simplement parce que c'était au début un projet de l'association Montrenet qui a pris son envol, surtout à travers Jérôme Monnet et donc moi-même, Benjamin, on a pris l'envol, fait prendre son envol à ce projet. À l'époque, autour de l'année 2000, parce qu'on en avait besoin pour un serveur qu'on s'était monté à titre personnel, et on s'est dit bon, ce serait bien de séparer les deux entités, mais on les a pas séparées juridiquement, on les a juste séparées dans la vision qu'on montre aux gens, quoi. Mais techniquement, non, il n'y a aucune structure juridique. Donc là, par exemple, pour le salon, on est venu, on a le financement du matériel, le prêt de matériel, etc. C'est les sociétés pour lesquelles on travaille avec Jérôme qui nous ont. Et puis Chantal aussi, donc la personne qui fait la documentation. Ce sont ces sociétés-là qui ont participé aux frais du déplacement, etc. Mais globalement, non, il n'y a pas de structure juridique. Puis on n'a pas vraiment l'intention d'en faire parce que bon, il y a des gens un peu partout dans le monde. On n'en sent pas l'utilité parce qu'il n'y a pas besoin de financement. Il n'y a pas besoin de. C'est vraiment. On pourrait associer ça presque à un GIE, une espèce de lieu commun entre différentes structures juridiques existantes. Donc on ne sent pas la nécessité d'en créer une de plus pour l'occasion.
D'accord. Et sinon, les services d'Altern-C, en fait, l'hébergement donc proposé par tous ces hébergeurs, ça s'adresse à qui ? À des associations, des entreprises, à des particuliers ?
Alors on a vraiment tout un tas de profils très distincts. À une époque, on avait Reporters sans frontières, par exemple, qui utilisait Altern-C. Alors pourquoi Reporters sans frontières aurait besoin d'être hébergeur ? Et bien, tout simplement parce qu'ils proposent éventuellement des accès à Internet pour stocker des données à des militants journalistes dans différents pays totalitaires. Ça leur permet d'avoir des endroits un peu sécurisés où ils peuvent stocker leurs données, donc ça leur permettait de distribuer facilement ces hébergements. On a des sociétés donc, dont je parlais tout à l'heure, on a des associations, mais les clients finaux, ça peut vraiment être n'importe qui. Il existe d'autres projets qui font à peu près la même chose, qui eux vont être plus ciblés. Par exemple, je pense à VHFFS, c'est Virtual Hosting for Free Software, ça veut dire que c'est de l'hébergement virtuel pour des logiciels libres. Donc c'est vrai qu'eux, ils ont plus développé des outils de publication de sources, de CVS, de collaboration de développeurs. Donc nous, on s'est pas mis dans une optique comme ça de s'adresser à un public. On cherche vraiment à faire un hébergement grand public, donc du particulier. Beaucoup de gens ont de l'hébergement de leur site perso sur des plateformes Altern-C, notamment l'Autrenet. Il y a sur les 700 membres, il y en a... J'ai pas de statistiques parce qu'on n'en dresse pas, mais à Venez, il y en a les bons deux tiers qui sont des particuliers. Beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG, puisque ça a été aussi soutenu par des associations qui faisaient de l'hébergement d'ONG. Donc il y a eu beaucoup d'ONG comme Médecins du Monde qui étaient aussi sous Altern-C ou Emmaüs International. Et aussi des sociétés, puisque maintenant ma société, par exemple, fait de l'hébergement de PME et d'artisans et d'artistes. Et donc on a des sociétés qui sont hébergées sur Altern-C et qui sont très contents aussi, notamment de l'autonomie pour la création de leurs emails. Quand ils ont quelqu'un qui arrive dans la boîte, ils créent un email, ils font ça tout seuls. Donc c'est vraiment des profils très divers.
Je sais que derrière Alterne, à l'origine, il y avait une éthique. Donc j'imagine que cette éthique est gardée dans Alterne C. Peut-être peux-tu nous en dire un petit mot ?
Alors au niveau éthique, c'est un logiciel. Un logiciel en tant que tel n'a pas forcément une éthique. Par contre, derrière, il y a des choix de développement qui ont été faits. Donc tous les logiciels qu'on utilise pour cette architecture sont libres. C'est quelque chose qu'on s'est imposé et qu'on continue à s'imposer. Alors libre, pas forcément GPL, mais au moins open source, donc des systèmes comme Apache par exemple, qui nous permettent de garantir que Alterne C lui-même ne sera pas dépendant de quelque chose de commercial ou de fermé. Donc déjà, ça permet d'avoir une confiance énorme dans la pérennité du produit, dans la qualité, dans le fait que l'ensemble restera libre. Et aussi, on a insisté dès le début sur la sécurité des systèmes. Donc on a un ami qui nous a fait un audit il y a quelques années, il a trouvé des trous de sécurité, donc on les a corrigés depuis. Hein. Ça a été, on a même toute une procédure pour déployer ça auprès des gens qui utilisaient Alterne C avant de la mettre en public quelques jours après. Et puis on a aussi insisté pour que par exemple les services de mail soient proposés en non sécurisé, ce qui est le standard chez tous les FAI, notamment de France, mais aussi en sécurisé. Et ça, on a été les tout premiers à faire ça, et notamment avec le projet Nolog, on était aussi à fournir un mail sécurisé. C'était basé un peu sur la même infrastructure. Et donc sur tous ces points-là, on essaie à chaque fois de proposer le service en mode sécurisé. Parce que souvent, ça ne coûte pas plus cher. Enfin, c'est même sûr, ça ne coûte pas plus cher à mettre en place. En plus, pour le mail, par exemple, c'est juste une case à cocher dans votre mail pour dire « ça y est, c'est sécurisé ». Et voilà, quoi. Pourquoi se priver de ça alors que c'est si simple ? Donc on essaie d'avoir une optique de sécurisation des données. Après, évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, un logiciel n'a pas forcément une éthique en tant que tel. Donc on peut très bien avoir un jour un hébergeur qui utilise la puissance du système de mail qu'on a mis en place pour faire du spam. Ça, on ne peut pas l'éviter. Mais bon, voilà, on est fournisseur d'outils. Un outil peut être utilisé aussi bien en classique.
Effectivement, c'est ça, la puissance du logiciel libre. On a une utilisation libre du logiciel. Pour conclure, peux-tu nous donner une adresse de site web pour avoir plus de renseignements ?
Alors, bah oui, tout simplement www.alternc.org, A-L-T-E-R-N-C. Là, vous avez toute la description du site, y compris une historique avec une petite photo de Valentin. Et j'ai oublié de le préciser, le site et le logiciel sont multilingues. Donc pour l'instant, on a français-anglais pour le site et français-anglais-espagnol pour l'interface. Donc n'hésitez pas à venir sur le site, c'est vrai qu'il y a pas mal d'infos. Puis on a un petit wiki où on a des news qui passent assez régulièrement.
Merci bien, Benjamin.
Merci.
Voilà, Alterne C, c'est bien, ça ne fait pas grossir, mangez-en. À présent, je crois qu'on est avec Mirno au téléphone.
Bonsoir.
Oui, Mirno, alias Philippe Mironov, ou l'inverse.
Voilà.
Tu vas nous parler aujourd'hui de Nakuki et Norean, qui est en fait un nouveau projet que tu as lancé avec Martial Dumas, qui est l'initiateur.
Dommage.
Oui, pardon. qui était l'initiateur de NasGaia, qui était une distribution à la manière de Debian complètement. Faite par des utilisateurs
complètement communautaires et françaises,
voilà.
Mais elle était basée source. Donc en fait, on est parti en septembre 2004 et on a commencé un nouveau projet donc en novembre 2004. Et en fait, ça s'appelle Norean. Donc Norean, c'est en fait des outils pour les créateurs de distribution. C'est pas une distribution en elle-même. On a fait un système de paquets, un système de base compatible FHS. On a fait un système type apt-get, on a fait des initscripts, on a fait un système de l'AFCD. Tout ça, en fait, c'est des outils basés sur ceux qui étaient sur NasGaia, mais plus finis, plus matures, et qui permettent de créer une distribution. Voilà. Donc c'est pour les gens qui veulent créer des distributions, améliorer leur propre projet.
Alors l'un des tours de force quand même de votre projet, c'est qu'à partir de n'importe quelle distribution existante sur le marché, vous pouvez en créer des lives ou d'autres en fait.
En fait, on peut créer un live CD à partir de simplement de pactage binaire, mais compilé avec notre système de pactage. Comme le permet Mandrake ou Debian avec la CLOPX. Mais en fait, ça va plus loin dans le sens où c'est Debian et Mandrake, c'est plutôt basé binaire, si vous voulez. On n'a pas vraiment de souplesse dans la création de distributions. Si vous basez une distribution sur Mandrake ou sur Debian, vous n'allez pas pouvoir faire évoluer le format, vous n'allez pas pouvoir faire trop de choses nouvelles, finalement. Mmh. Là, en fait, vous pouvez faire une distribution basée source, une distribution basée binaire, ou mixer les deux. Vous pouvez prendre une Mandrake et par-dessus utiliser des ajouts avec ce système de pactage. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quoi. La limite est simplement votre imagination.
Celle de l'utilisateur, en fait.
Voilà. Et donc pour montrer un peu ce qu'on peut faire un peu avec ce système, on a fait un autre projet qui s'appelle Nakuki. Mm-hmm. Donc en fait, là, c'est une distribution très élémentaire, basée source, sur ces outils.
D'accord.
Et en fait, elle sert à deux choses, donc à développer nos outils, bien sûr, à tester, bien sûr, et aussi pour apprendre, un peu comme LFS.
D'accord.
Scratch qui permet en fait de créer une distribution en partant de rien du tout, mais elle est parfois un peu complexe à aborder pour le débutant. Et Nakuki permet de faire une sorte de préambule à ce projet.
D'accord. Il y a une interface graphique qui est déjà disponible, d'ailleurs.
Pardon ?
Il y a une interface graphique pour créer ça qui est déjà disponible, d'ailleurs.
Nakuki ?
Nakuki.
Nakuki, en fait, pas vraiment. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut démarrer sur un CD Live et recompiler complètement une distribution. On peut suivre le chemin tracé par LFS, c'est-à-dire on suit un how-to et on suit des étapes. Et comme ça, on apprend en même temps sans avoir toutes les difficultés liées à la maintenance du système et aux surprises de la compilation, car tout est pré-testé et pré-packagé.
D'accord. Une dernière chose avant de se quitter. Aujourd'hui, on peut trouver des informations sur Nakuki et Norian sur le site freecontrib.org.
Oui.
Réellement, il sera utilisable pour tout le monde dans quel délai ?
Oh, on espère dans un ou deux mois avoir quelque chose de facilement utilisable pour tout débutant voulant s'initier. Sinon, actuellement, c'est déjà utilisable pour les personnes qui s'y connaissent déjà bien en Linux, qui veulent par exemple faire une distribution. Et là, c'est déjà utilisable. D'ailleurs, on a une distribution qui s'appelle Fnux. C'est donc un autre projet qui n'est pas du tout lié à nous, qui utilise une partie de nos outils.
D'accord. Et donc, pour les gens qui veulent venir voir un peu de quoi il en retourne, il faut qu'ils aillent à quelle adresse ?
Alors, freecontrib.org.
Ben, on te remercie encore, Philippe, et à très bientôt.
Bonne continuation. Bonsoir.
Merci.
Voilà, toujours avec Docteur Paradox et quelques brefs extraits, trop brefs sans doute, de musique. Et puis à présent, eh bien, on va écouter une petite interview que nous avait ramené Dimitri, une interview de Nekeme, nekeme.org, une association qui développe des jeux libres. Et tout ça pour introduire évidemment la présentation de la prochaine édition de Salon Game Over qui aura lieu les 1er et 2 avril à Limoges. Dimitri nous sera au téléphone dans une petite sizaine de minutes. Mais pour pour l'instant, on écoute cette interview pour se tenir au courant de l'actualité de cette association nekeme.org qui développe plusieurs jeux sur plateforme libre.
Donc bonjour Jean-Baptiste, tu es membre de l'association Nekeme Prod. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette association ?
Bonjour, donc Nekeme Prod est une association qui a pour but de promouvoir et développer des jeux libres, notamment en logiciel libre. Et donc on fait pas mal de salons pour promouvoir nos jeux et aussi les jeux des autres, donc tout ce qui est libre.
Peut-être peux-tu nous parler un peu de quelques jeux qui sont faits par Nekeme ?
Alors les jeux Nekeme pour l'instant on en a 5. Donc on a Arkart qui était le jeu original, qui est un jeu de rôle. On a Slune qui est un jeu de course avec un scénario qui tourne autour du sida en Afrique, qui est un scénario un peu contestataire. On a Balazar qui est un autre jeu de rôle qu'on vient de lancer il y a quelques semaines. On a Bankis qui est un jeu une sorte de Liero en fait. Et on a Goblin qui est un projet qui est en cours de développement et qui est un jeu assez indéfinissable. Il faut suivre le projet pour comprendre.
Et comment ça fonctionne chez Nekeme ? C'est-à-dire parce que pour la conception d'un jeu, il faut des scénaristes, des développeurs, des graphistes, des musiciens. Donc en fait, cette association regroupe un peu toutes ces compétences-là ?
Oui, on a toutes sortes de monde dans Nekeme. On a des gens qui se font de la programmation, des graphistes, des scénaristes pas mal, des musiciens, des bruiteurs, des traducteurs aussi. Il y a des gens qui font aussi un peu de tout. Moi, par exemple, je fais pratiquement tout. Et voilà, on trouve vraiment de tout. On a besoin de tous ces gens-là, donc si vous rentrez dans n'importe laquelle de ces cases, vous êtes les bienvenus.
D'accord, mais quand on parle de jeux libres, en fait, à quoi ça consiste ? C'est-à-dire que on peut imaginer que le code, c'est un logiciel libre, donc le code est libre, mais qu'en est-il des données, par exemple ? Est-ce que les données sont soumises à une licence identique au code source ?
Alors, la question des données est vraiment délicate. Donc pour nous, on considère qu'un jeu, c'est du code et des données. Donc un jeu libre, ça doit être du code libre et des données libres, logiquement. Donc ça, c'est notre point de vue. Mais on prépare une classification des différents degrés de liberté d'un jeu qui devrait arriver bientôt avec différents degrés, s'il n'y a que le code de libre, qu'une partie du code, que le moteur de 3D, etc.
Oui, puis même pour les données, on peut imaginer des licences libres comme les Creative Commons qui permettent justement plus de souplesse au niveau des degrés, des libertés attribuées aux utilisateurs.
Oui, pour l'instant, comme licence libre, on utilise surtout les Creative Commons ou la GPL, même pour les données. Mais après, on peut aussi avoir des licences qui ne sont pas libres, mais qui peuvent être considérées comme plus ou moins acceptables, c'est librement redistribuable. Il faut voir après si quelqu'un souhaite interdire la modification de ces données. Par exemple, si c'est des données qui ont une signification un peu... une signification par exemple politique ou pas politique mais engagée et qu'on veut limiter le détournement de la signification par exemple. Justement il y a un débat là-dessus qui est assez difficile.
Oui effectivement le débat sur la liberté autour des œuvres est un débat très, très, très houleux, très controversé mais qui finalement il y a des arguments pour et contre la libre modification, enfin c'est surtout la modification qui pose problème. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Peut-être que tu peux nous parler un peu de Balazar, qui est un jeu qui a été annoncé tout récemment, sur lequel tu travailles.
Oui, alors Balazar, c'est un jeu de rôle donc, qui met en avant pas le nombre de compétences ou la liste de sorts, mais plutôt la non-linéarité du scénario et la liberté d'action. Donc le but est de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. Donc par exemple, on choisit, on peut être bon, on peut être mauvais, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et donc l'objectif est, on arrive dans un monde qui est complètement inconnu et qui est en train de disparaître. Et donc il faut prendre des photos de ce monde parce que seules les photos survivront. Donc la question est choisie et la question se pose du choix des photos qu'on va choisir de laisser derrière soi en fait. Donc selon le choix des photos, ça correspond après à l'image du personnage qui part derrière. Et on peut choisir après de s'impliquer plus ou moins dans des combats. Donc si on aime le combat, ça devient un peu un jeu de combat pratiquement. Et si on veut juste se promener dans le monde et prendre des belles photos, on peut aussi. Et sur le plan technique, donc c'est programmé en Python et ça utilise le moteur 3D Soya que j'avais déjà réalisé pour Slune, qui est un moteur de 3D très simple et qui est très facile à apprendre grâce aux nombreux tutoriaux entre autres.
Oui, en fait, Soya c'est un logiciel, c'est pas un jeu, mais c'est un logiciel qui en fait permet de construire. C'est une brique de base pour construire des jeux, quoi.
Oui, alors c'est, en fait, c'est un moteur de 3D, donc ça permet de faire des logiciels en 3D, donc des jeux, mais aussi on peut imaginer des visualisateurs de molécules, où j'avais utilisé ça pour des systèmes de télésurveillance en médecine, par exemple. Et sinon, Soya est disponible sous licence libre, donc GPL.
D'accord. Nekeme a déjà participé l'année dernière à la première édition de Game Over, salon du jeu vidéo sur plateforme libre. Donc, est-ce que Nekeme va nous faire l'honneur de participer encore une fois à Game Over? Et si oui, qu'est-ce qu'ils vont apporter?
Donc oui, on y participera certainement et on va apporter nos jeux. Et donc en fait, on est en plein dans le thème du salon finalement, parce qu'on fait des jeux libres, en pratique on les fait sous Linux. Et donc on va présenter nos jeux, on fera peut-être aussi des conférences sur par exemple le moteur Soya ou sur les jeux. Et des conférences aussi sur peut-être sur ce qu'apporte le logiciel libre quand on fait des jeux, des choses comme ça.
D'accord, donc on pourra donc vous rencontrer à Game Over, donc ça se passe le 1er et 2 avril à Limoges. Et également si on veut avoir des renseignements sur Nekeme, donc on peut aller sur www.nekeme.net. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu aimerais parler de Nekeme?
Oui, alors là on va lancer dans les semaines qui suivent le FDR, donc FDR pour Free Data Repository. Donc c'est une base de données en ligne, de données libres, donc notamment des données qui servent pour les jeux, donc des graphismes, donc 2D, 3D, du son, éventuellement des scénarios aussi, de la musique. Et donc l'idée c'est que quelqu'un qui veut se lancer, qui veut programmer des jeux un peu pour essayer, par exemple avec le moteur Soya qui peut être programmé très rapidement, d'avoir un personnage qui bouge dans un monde en 3D, l'idée c'est de pouvoir accéder à plein de modèles déjà existants et de les réutiliser, donc selon le principe du logiciel libre, et de pouvoir après les modifier, éventuellement remettre les modifications dans la base. Donc par exemple typiquement on prend un modèle 3D d'un personnage, on récupère les animations qui existent, et puis si on manque une, on la rajoute, et après ça enrichit la base et ça enrichit le personnage d'autant.
D'accord, mais merci.
On attend le coup de fil de notre ami Dimitri qui est en ce moment même à Limoges où il participe à l'organisation du salon Game Over, deuxième édition si je ne m'abuse de ce salon dédié aux jeux sur plateforme libre.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, Gilles, c'est que tu y seras présent.
Absolument, je serai présent avec mon petit magnétophone pour essayer de faire évidemment moult interviews. Il faut savoir que il y aura des ateliers pour enfants, des ateliers pour découvrir l'informatique et jouer à des jeux adaptés. Il y aura un concert de musique libre puisque Dominique Godon sera là avec son groupe, ainsi qu'un autre groupe qui s'appelle Tamieux. Ils se produiront le 31 mars, le 1er avril et le 2 avril à l'occasion du salon. Et puis il y aura un village associatif avec pas mal de trucs et puis plein de conférences aussi. Alors, des conférences dont je vais peut-être laisser à Dimitri s'il trouve le moyen de nous téléphoner. Je crois qu'il y a un petit problème de liaison téléphonique. En tout cas, on attend qu'il nous appelle. En attendant, je peux vous donner quelques petites précisions sur le programme. Donc voilà les conférences. Voilà, ça y est, j'y arrive. Ah, on me fait signe en régie. Voilà, Dimitri, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Donc je rappelais que c'est le 1er et 2 avril à Limoges, à l'IUT de Limoges, que se tient donc la deuxième édition de Game Over.
Donc Game Over, je vais peut-être en quelques mots vous présenter ce que c'est. Donc c'est un salon national, enfin pour l'instant ce n'est que national, mais on ambitionne l'international. Je vous en parlerai un petit peu à la fin. Donc c'est un salon national de jeux vidéo sous Linux. C'est une première en France et même dans le monde, puisque ça n'existe pas pour l'instant, hormis la première édition l'année dernière. Donc le but c'est de montrer que sous Linux, comme sous d'autres systèmes tels que Windows, on peut avoir des jeux vidéo qui fonctionnent très bien, qui sont de qualité équivalente, et que justement le grand public peut venir aussi à Linux parce qu'il y a des jeux vidéo maintenant. Donc qu'est-ce qui va se passer lors de Game Over? Il y aura une LAN party, donc c'est-à-dire que des joueurs pourront s'affronter à Quake 3. Donc Quake 3 est un jeu propriétaire créé par ID Software et qui fonctionne nativement sous Linux, c'est-à-dire que le développeur ID Software a créé spécifiquement une version Linux en plus de la version Windows et de la version Mac. Il y aura aussi d'autres ordinateurs en libre service sur lesquels les visiteurs pourront découvrir d'autres jeux, notamment des jeux libres. On ne sait pas encore exactement quel jeu il y aura, mais il y aura une sélection très intéressante. En parallèle de ça, il y aura des conférences. Il y aura une vingtaine de conférences. Juste avant, on a entendu l'interview de Jean-Baptiste Lamy de Nekeme Prod. Et qui sera là pour présenter son moteur Soya et ses deux jeux, donc Slune et Balazar. Il y aura également deux autres personnes de Nekeme qui présenteront Goblins, donc le jeu dont Jean-Baptiste a dit qu'il était un petit peu nébuleux, un peu difficile à comprendre. Ben voilà, donc il y aura deux conférences pour expliquer ce que c'est que Goblins. Il y aura aussi un débat sur les données utilisées dans les jeux, donc à savoir sous quelle licence on peut diffuser des données librement. Donc c'est un peu aussi ce qu'évoquait Jean-Baptiste juste avant. On aura aussi Gilles, toi-même, qui viendra me présenter Divergence FM, comment la radio fonctionne entièrement en libre. Dominique Godon, donc le chanteur du groupe Godon, en plus de chanter le soir, il tiendra deux conférences, dont une sur la musique libre, et une autre sur les Creative Commons, donc les Creative Commons qui sont des licences de diffusion, notamment pour les œuvres, des licences libre diffusion. On aura aussi Thierry Stoer qui sera évidemment là pour nous parler des formats ouverts. On aura les brevets logiciels, c'est d'actualité, donc il y aura Nat Makarevich qui sera là pour en parler. On aura aussi quelques conférences plus orientées graphisme avec le célèbre Ayo qui vient de présenter ses œuvres sous Blender et Inkscape, donc qui sont deux logiciels de graphisme. Et enfin, on aura aussi un débat sur rendre les jeux plus accessibles, c'est-à-dire accessibilité pour les personnes handicapées.
Donc en fait, si on a bien compris, en fait, c'est un salon qui est consacré aux jeux. Où on peut pratiquer évidemment, où on peut se renseigner aussi à travers ces conférences sur les jeux eux-mêmes, sur les outils qui permettent de les concevoir, et puis sur toutes les problématiques qui tournent un petit peu autour, justement que ce soit les données libres, donc le contenu qu'il y a à l'intérieur de ces jeux, et puis les outils pour les faire. Est-ce qu'aujourd'hui, même si les auditeurs qui nous écoutent ne sont pas forcément tous des développeurs de jeux, mais ça peut peut-être les intéresser. Est-ce que les outils nécessaires à la fabrication d'un jeu existent tous dans le libre ?
Oui, je dirais qu'il en existe même plus dans le libre que dans le propriétaire, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire un jeu ? Il faut un compilateur et un éditeur de texte. En gros, ça se résume à ça, pour ce qui est de la programmation. Et les compilateurs sont présents depuis toujours, sous Linux et sous tous les Unix. Après, pour le graphisme, c'est un peu moins vrai, bien qu'il y a aujourd'hui des outils très performants. Je pense à GIMP pour ce qui est de la 2D, pour l'illustration 2D, pour la création de textures. Il y a Blender donc pour la modélisation en 3D. Donc ce sont deux outils qui concurrencent largement le duo Photoshop 3D Studio Max, qui sont généralement utilisés par les développeurs de jeux. Dans le propriétaire.
Très bien, on va...
Je vais peut-être rajouter quelque chose sur les concerts. Vite. Parce qu'en fait, à l'origine, était annoncé donc un concert de Godon et de Tamieux. Donc je présente peut-être un peu Tamieux. C'est un jeune artiste qui fait de la musique sur Game Boy. Donc c'est un peu particulier, je pense que ça sera intéressant à voir. Et donc comme je disais, il y avait un concert d'annoncé à l'origine, donc le samedi 2 avril. Ce concert a été annulé à l'emplacement prévu, et à la place, en fait, on aura trois concerts. Donc, un le 31 mars, le jeudi soir, dans le local du collectif de l'oreille électronique. Il y en aura un le vendredi 1er avril au White Grouse. Et pour finir, donc le samedi 2 avril, il y aura un concert au pub, le Lord John. Donc pour trouver les adresses des lieux de concert, l'adresse aussi pour venir à Game Over et tout le programme.
www.game-over.eu.org.
Voilà.
Voilà, on te remercie pour tous ces renseignements concernant Game Over. Bon, donc il faut aller sur le site et puis écouter ce que tu as dit pour pouvoir y accéder. Et c'est donc le 1er et le 2 avril de cette année.
C'est ça.
Merci Dimitri, on se retrouvera là-bas.
Voilà, au revoir.
Au revoir.
Avant de se quitter sur notre générique, toujours Docteur Paradox, eh bien, je vous donne deux petits rendez-vous agenda du libre. Ce sera par exemple, ben, évidemment, le deuxième salon Game Over, les 1er et 2 avril à Limoges. Ce sera aussi du jeudi 19 au samedi 21 mai, la troisième édition de Linux Edu, le rendez-vous des projets informatiques libres les plus actifs de France dédiés à l'éducation et aux collectivités, organisé par le CRI de Haute-Savoie. Et puis voilà.
Bah oui, après il y aura les rencontres mondiales du logiciel libre début juillet, mais nous aurons l'occasion d'en parler, surtout que nous y serons présents et que nous ferons d'ailleurs, sans doute si tout va bien, une émission en direct de là-bas.
Eh bien écoutez, on va vous souhaiter une excellente soirée à tous et on va vous quitter en musique.
En souhaitant que Gilles se rétablisse d'ici le mois prochain.
Ouais, on va essayer. On remercie Caroline Novara qui a réalisé la régie de cette 18e divergence numérique. Il fait très chaud dans les studios. Bon été à tous.
Bonsoir.
Au revoir.
Et ne sait quels autres mots barbares.